il faut aller toujours à contre-courant. Parce que ce sont les poissons morts qui suivent le courant. Et c'est vrai que les médias, en général, dans tous les, enfin, dans l'Occident en tout cas, dans les dictatures, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais ont tendance à suivre le courant. Et ça, je pense que c'est fondamental. Un bon journal, de temps en temps, il doit aller à contre-courant.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. En face de moi aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour. Fogg.
Bonjour. Fogg pour les intimes, j'allais dire. Un acronyme trompeur puisqu'il a passé une bonne partie de sa vie. Vous avez passé une bonne partie de votre vie, j'imagine, comme journaliste, à dissiper les Fogg, les brouillards de la pensée trompeuse, sinon peut-être menteuse, parce que cela arrive. Vous avez tour à tour été journaliste et patron au Nouvel Observateur, au Figaro et au magazine Le Point. Là-dessus, on est d'accord. L'itinéraire d'un enfant gâté, pourrions-nous dire, itinéraire qui vous fait partir plus ou moins de la gauche pour éventuellement vous retrouver.
C'est plus compliqué que ça, on en parlera.
Tout est plus compliqué qu'une présentation, de toute façon. Même un article, quand on a tous les mots pour le dire, ça peut déjà être trop court. Vous êtes l'auteur, alors là, vous avez eu le temps, de nombreux livres, de grands portraits politiques aussi, Mitterrand, Chirac, plusieurs autres. Votre histoire
des romans
intime,
aussi, hein,
des
romans, pas oublier, les romans,
parce que c'était
romans,
votre aspiration, ouais, que d'être absolument romancier. Mais je vous dirais que, justement, dans ce dernier épisode de votre vie d'auteur, avec cette histoire intime de la Ve République, on est à la frontière du travail de l'essayiste et peut-être aussi même du romancier, parce qu'il y a un peu de vous, il y a des mémoires intimes, justement. Et le dernier tome s'appelle Tragédie française, Tragédie, et je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose dans ce que vous écriviez, justement, de la conception nihiliste que nous avons de la politique et de cet art de ne pas gouverner qui semble dominer aujourd'hui. Est-ce pour ça que c'est une tragédie?
Absolument, c'est-à-dire le sujet du livre, c'est quoi? C'est cette France qui a été redressée par De Gaulle. C'est le premier tome, le sursaut. C'est comme une pièce de théâtre.
Trois actes.
Acte 1, sursaut. De Gaulle arrive, déficit partout. C'est la 4e République avec 15% d'inflation, la guerre d'Algérie. Enfin bon, c'est l'horreur. Rien ne va plus. De Gaulle arrive, redresse tout en trois coups comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. En quelques mois, tout est fait, y compris un plan de rigueur. Maus, comme De Gaulle n'est pas suicidaire, évidemment, il a fait les élections législatives avant et il n'aura pas dit qu'il allait faire ce plan horrible anti-déficit. Parce que lui, contrairement à ceux qui ont suivi, il pense que, il faut 1 + 1, ça fait 2 et que c'est pas en augmentant les dépenses qu'on crée de la croissance. C'est Jacques Rueff qui est le grand économiste.
Le maître d'œuvre de ça.
Qui devrait avoir des statuts partout en France, d'ailleurs, qui le convainc de ça, qui est un économiste français formidable. Et ce plan Rueff, dit Pinet Rueff aussi, parce que c'est Pinet qui le présente, mais qui était très contre. Enfin, tout le monde était contre ce plan, sauf De Gaulle, Rueff, et puis je crois que c'est à peu près tout, et puis les 2-3 ministres que De Gaulle avait avec lui à l'époque. Donc on est fin 1958. Et vous savez ce qui se passe? C'est un an après, bon, l'économie commence un peu à repartir, mais surtout, 10 ans après, vous avez des taux de croissance de l'ordre de 6, parfois même 7%, ça c'est sous Pompidou, après, mais enfin, ce sont les effets de ce plan de rigueur Maus, voilà. Alors ça, c'est le sursaut. Acte 2, la belle époque. Alors ça, vous avez...
Deux présidents,
les assassins du général, qui sont d'ailleurs complices, parce qu'ils sont tous les deux arrangés pour le faire partir au moment du référendum de 1969. Et en même temps, ce sont des disciples, ses enfants, c'est De Gaulle qui leur a tout appris. C'est vrai de Pompidou, bien sûr, mais c'est vrai aussi de Giscard. Et c'est la belle époque, parce que c'est une période où la France est bien gérée, même si elle doit affronter des deux chocs pétroliers, Maus aussi, et à côté desquels l'affaire du Covid, c'est la roupie de Sansonnet, parce que les deux chocs pétroliers, vous n'étiez pas né peut-être, mais c'était...
J'étais plutôt né.
Un tremblement de terre, disons, sur la terre entière, c'était juste atroce, avec une grosse période de récession, enfin bon, bref, ils gèrent, les deux. hein, jusqu'à Pompidou. Et puis à partir, ça c'est donc l'acte 2. L'acte 3, ben, c'est tragédie française parce que, au fond, il y a, ça commence avec Mitterrand qui pense, ça c'est le programme socialiste débile, je sais pas où ils sont allés trouver ça, que c'est en augmentant les dépenses qu'on va créer de la croissance. John Maynard Keynes, mal lu. Et alors, il y a tous les petits minés de Mitterrand, les Attali, Fabius, etc., qui le convainquent que c'est la bonne idée. Comme ils ont des diplômes, ils les croient. Bob Bérégovois de l'autre côté, qui... Bon, enfin bref, tous ces gens, disons, prennent le contrôle du cerveau de Mitterrand. Et 81, c'est une période épouvantable. Et ce qui est effrayant, si vous voulez, c'est pour ça que c'est une tragédie française, c'est que Mitterrand, attention, il y a de la profondeur. C'est quelqu'un qui a quand même...
Mais nous y reviendrons parce que le personnage est fondamental dans votre parcours aussi.
Cet acte 3, tragédie française, eh ben, ça dure 40 ans parce que, en fait, tous s'y mettent. La gauche, la droite, et pour terminer, évidemment, Macron, qui est une sorte de Mitterrand, alors sur le plan des dépenses publiques, sans la profondeur.
L'art de ne pas gouverner, c'est la norme aujourd'hui, donc de ne pas faire de choix.
Je dirais... Il y a une définition chez De Gaulle de l'art de gouverner, c'est en 1967 quand il veut virer Pompidou, c'est avant la rupture entre les deux en 1968, mais déjà il songe à virer Pompidou, il n'en peut plus, il dit il a pas de couilles, c'est l'expression qu'il emploie, ça vous avez ça dans les mémoires de Focard et c'est pas inventé quoi. Et il dit à un moment donné, de toute façon, il dit tout le temps oui, gouverner, au contraire c'est dire non, 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 non. Voilà, c'est la conception de Gaulle et je crois que les Français aiment bien que de temps en temps on dise non. Vous voyez, vous avez vu l'extrême popularité soudaine de Gabriel Attal après avoir interdit la baïa. Vous avez vu aussi l'impopularité de Raymond Barre qui disait sans arrêt, mais attendez, mesdames, messieurs, la France dépense beaucoup plus qu'elle produit, faudrait peut-être arrêter ces bêtises. Donc, et les Français écoutaient, d'ailleurs, il était populaire. Enfin, impopulaire pendant un temps et populaire ensuite. Donc, si vous voulez, la France peut comprendre, mais il y a une espèce de... C'est pas une peur, d'ailleurs, qui s'est emparée des politiques. Ils ont trouvé beaucoup plus simple de gérer n'importe comment et, oui, de faire des chèques, parce que c'est ça. Alors, parfois, on fait beaucoup de chèques, comme l'a fait Balladur, qui a littéralement emprunté comme un dingue dans la période où il était Premier ministre, entre 93 et 95. Il a fait des chèques à Tire-Larigot pour gagner la présidentielle, il a perdu. Mais Emmanuel Macron, qui a utilisé la même stratégie en 2022, lui, il a gagné. Voilà.
Donc, on achète donc la complaisance des électeurs ?
Oui, on a un peu peur qu'ils se soulèvent, on a peur des manifestations, on a peur d'affronter, on a peur de... On fait même pas de pédagogie. On prend souvent les électeurs pour des imbéciles. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, avec Emmanuel Macron. Je veux pas le charger trop, parce que il est la suite d'une longue...
ce sujet, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui, à l'heure horizon pointait peut-être cette présidence Macron. Alors, on a beaucoup, beaucoup glosé sur ce que vous avez écrit au sujet de Laurent Fabius. Plusieurs pages consacrées au personnage.
Oui, alors, alors, c'est intéressant parce que ces pages-là, moi, c'est pas sympa. Peut-être qu'on... Je me suis dit, c'est peut-être un peu violent. D'ailleurs, j'ai enlevé des choses. Et en fait, c'est à la suite d'une rencontre. C'est-à-dire, c'est pas du tout reconstruit, vous voyez. C'est, j'ai utilisé mon journal. C'est-à-dire,
vous êtes retourné dans vos notes.
Oui, mais pas les notes parce que j'avais beaucoup de notes. J'avais en même temps un journal. Je tenais un journal,
quotidien.
Mais pas pour l'histoire. Non, une fois tous les 2-3 jours, vous voyez. Mais enfin, ça faisait énormément de cahiers. Donc, je m'en suis servi évidemment. Et là, c'est pratiquement la reprise intégrale, sauf un peu de censure de ma part, d'auto-censure sur ce personnage qui ressemble déjà beaucoup à Macron. C'est-à-dire qu'il n'a aucune, je veux dire, c'est ça qui est fascinant, aucune idéologie. Vous voyez, il va épouser...
Il est transactionnel.
Voilà. Il va épouser l'idéologie du moment, quitte à en changer. Alors, il est au départ très à gauche, en 1980. Dès qu'il y a le virage libéral, il devient libéral. Puis après, il devient autre chose. Il s'en fout. Et si vous voulez, ça, c'est le grand problème avec l'idée aussi que les électeurs sont des imbéciles. Donc, on leur parle toujours comme
des
gens anormaux, des demeurés. C'est effrayant. Et ça, si vous voulez, c'est une longue continuité. Alors... De temps en temps, il y en a qui changent. On ne peut pas dire que Mitterrand traitait les électeurs comme des demeurés, c'est pas vrai. Chirac non plus. Je dirais Sarkozy non plus. Hollande, il il croyait qu'il arriverait, disons, à convaincre sa gauche, parce que Hollande, c'est très intéressant, lui, enfin là, c'est une parenthèse, mais Hollande est un président empêché. Lui, il n'a pas la majorité, Martine Aubry lui a mis une majorité de foldingues, d'hyper-gauchistes, d'écologistes, enfin, écologistes, vous savez ce que c'est les écologistes en France, ce sont des escrologistes, parce qu'en fait, ils sont gauchistes, on pouvait les appeler escro-écologistes.
Escrologistes.
Oui, bien sûr, vous ils n'ont rien d'écologiste, mais ils s'en foutent de l'écologie.
Vous pensez vraiment?
Ils n'ont jamais vu une vache, ni une bouse, ils savent pas ce que c'est. Ils s'en tapent totalement le coquillard.
C'est donc c'est une
effrayant.
Idéologie seulement.
Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. Et si vous voulez, c'est affreux d'ailleurs, parce que moi je suis écologiste.
Élevé sur une ferme.
Depuis très longtemps, bah, j'étais élevé à la ferme, donc forcément on a un petit rapport, on a un contact particulier avec la nature, bien entendu. Ça jouait toujours, ça. Même le rapport à la mort est très différent, parce que à la ferme, bah oui, on regarde la mort en face, hein. Les paysans, ils regardent la mort en face.
Alors, je reviens à Fabius, non pas pour vous faire regretter ce que vous avez écrit.
Non,
parce que c'est assez inspiré.
Je regrette pas.
Alors, je dis donc.
Non, j'ai coupé ce que j'aurais pu regretter.
Alors, sous Fabius, perce déjà Macron. Il préfigure les guapes de la génération du « tout pour ma gueule », pas d'affect ni de scrupule, le même amour effréné de soi, la même absence de conviction, la même aptitude à affirmer avec componction une chose et son contraire, la même incapacité à cacher sa chafouinerie, la même assurance aussi de l'attrait qu'elle exerce sur les autres. Ne suffit-il pas pour les embobiner? Ça dit quelque chose, en tout cas, de ce qu'est aujourd'hui devenu la classe politique, qui n'en a que pour elle, si je me fie à ce portrait.
Ouais, avec en plus une absence de culture. Ce que je ne dirais pas tout à fait pour Laurent Fabius, qui avait quand même lu quelques livres, notamment de la littérature.
Agrégé de littérature moderne.
Oui, voilà. Il avait été obligé, mais même, de toute façon, c'était un lecteur quand même, pas quand même un grand lecteur, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait un beau style. Mais
Emmanuel
Macron,
lui... Est-ce
que ça
excuse tout d'avoir de la culture? Parce que c'est un peu ce que vous faites avec Mitterrand, puis j'ai dit
vous
qu'on y
raison.
Reviendrait.
Ah non, mais ça, c'est...
Mais
oui,
j'ai dit qu'on y reviendrait.
Vous êtes en train de marquer un point.
Alors, mais laissez-moi...
Mais pour continuer...
Non, je veux finir de le marquer,
oui,
mon point.
Oui,
donc, je vais aller au filet, je smash. Et c'est intéressant, parce que c'est une phrase, justement, qu'on vous a beaucoup lue. Elle est très belle. « Comme une grande partie de ma génération, vous parlez de vous, je croyais que le monde avait été créé pour lire ou écrire et que les livres nous étaient aussi nécessaires que l'air, le vin, le ciel, la mer, la beauté, sans lesquels l'existence est une erreur. » Mitterrand incarnait cette philosophie-là. C'est sans doute pourquoi j'ai fini par tout lui pardonner. Ses accommodements avec la morale, ses délires économiques, son accès de vanité, sa pratique monarchique du pouvoir, c'est un très lourd tribut à payer à la culture d'un homme. Parce que dans votre histoire, il est le point de charnière, il fait tout basculer.
Oui, mais alors attention, il y a deux choses. C'est-à-dire, Mitterrand, il y a l'homme politique. L'homme politique, je critique très durement dans ce livre, c'est évident, parce que c'est à cause de lui que tout ça s'est passé. En même temps, attention, il y avait tous ses courtisans autour, enfin, il n'est pas le seul responsable. Il y avait, c'est vrai, Pierre Mauroy, qui était son premier ministre, qui lui essayait de freiner les choses, qui voyait bien que...
Vous l'aimez bien
comme
d'ailleurs.
Il dit, oui, mais il dit, on allait dans le mur en klaxonnant, on va dans le mur en klaxonnant, c'était sa grande phrase, je me souviens. Et Dieu sait s'il me l'a dit d'ailleurs, il était complètement... Il luttait contre les autres, hein, voilà. Mais Mitterrand, quand vous sortiez du personnage politique, l'homme privé était, comment dire, on ne pouvait pas ne pas l'aimer.
Délicieux.
Délicieux. Et je vais vous dire, moi qui ai une culture littéraire et qui fais passer la littérature, enfin, pour le temps qui lui reste, parce que c'est un peu comique quand on voit aujourd'hui, quand on est surtout entouré de jeunes. Bon, bref, moi qui aime la littérature, c'est vrai que je me souviens, il parlait comme un écrivain. C'est-à-dire, sans cesse, il m'arrivait, après l'avoir vu, de noter des phrases, et qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui étaient des phrases d'écrivains, à propos de l'histoire, à propos de la littérature, à propos d'autres choses, à propos de la vie quotidienne, c'était des phrases d'écrivains. Donc c'est ça, je reconnais, qui me séduisait. Donc je l'aimais, j'aimais l'homme, mais je n'aimais pas le politique. Mais ça, c'est tout à fait, comment dire, je crois que, enfin, on est obligé quand même, on a le droit d'être intelligent de temps en temps dans la vie et pas de tout mélanger.
Je suis tout à fait d'accord,
voilà,
avec vous.
Donc c'est la même chose d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup l'écrivain Céline, enfin, certains livres évidemment, Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit notamment, ou même La vie de Semmelweis. Pour moi, c'est un écrivain immense. Le personnage est abject. Bon, Mitterrand n'était pas abject. Simplement, Mitterrand a, comment dire, dire, envoyer la France dans le mur en 1980, même si c'est passé des belles choses aussi en 1980, c'est pas tout noir, tout n'est pas acheté, mais disons, il a donné le signal d'une conduite, d'une politique extrêmement laxiste, l'affaissement qu'on a aujourd'hui. Sérieusement, on peut dire que Macron a sa part aussi, parce qu'il est là depuis 7 ans, et puis ça ne s'arrange pas.
Est-ce que vous vous êtes arrêté à penser au parallèle qu'il y avait à faire, puisqu'on parle d'admiration, d'amitié, d'amour, je pense que le mot est juste, entre vous et Mitterrand, est-ce que vous vous êtes arrêté à penser à ce que son médecin vous dit, quelques minutes après sa mort, je pense, il vous dit, si je ne me trompe pas, ses derniers mots, parmi ses derniers mots, qu'il vous a beaucoup aimé, et vous répondez plus ou moins...
Moi aussi.
Ben ça fait penser à la Boétie à Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a un vrai parallèle.
Ah non, mais je l'aimais. Ça, je reconnais, j'ai toujours reconnu ça. C'est un peu choqué parce que ce qui est drôle avec lui... Non, mais attendez, moi j'ai travaillé dans un journal de gauche, qui était le Nouvel Observateur, où j'étais très heureux comme journaliste. J'ai travaillé 17 ans. Hein, je suis resté 17 ans dans le journal. Les 3-4 dernières années, j'étais devenu directeur de la rédaction. Mais bon, j'aimais ce journal. Bon, en 1974, Mitterrand est candidat. Le Claude Perriel, qui était le patron du Nouvel Observateur à l'époque, trouve rien de mieux que de lui filer une petite équipe pour aider pour la campagne. Hein. J'en fais partie. Bon, mais
délégué par le journal.
Délégué par le journal. Non, mais c'est atroce, c'est atroce.
Alors la distance éditoriale totalement inexistante.
Oui, mais enfin, j'étais déjà, je savais schizophrène. Je suis journaliste, donc j'étais totalement schizophrène.
C'est ça, après, journaliste. Après, je n'en pensais pas schizophrène.
Ah oui, bien sûr. Moi, je suis très schizophrène. Bon, ça, c'est.
Est-ce que c'est vrai de tous les bons journalistes, c'est ce que vous dites?
Je crois qu'on est obligé de l'être un peu, parce qu'il faut chercher l'information auprès de la source, donc on est obligé d'être charmant. Et puis après, quand on a l'information, si elle est violente, si elle est cruelle, on la passe quand même. Ben oui, trahir, c'est mal, c'est pas le mot, parce que c'est notre métier. Moi, je dis toujours, il faut toujours se méfier des journalistes, c'est écrit dessus, on est là pour ça, on cherche l'information. Et quand on a l'information, si on n'a pas passé, comment dire, si on n'a pas juré, etc., évidemment qu'on la passe. Évidemment, mais c'est naturel.
C'est un jeu de charme.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est si vous voulez, Mitterrand, c'est quelqu'un, c'est vrai, auquel je pense souvent, chaque jour, comme je pense souvent à mes parents, ou je sais pas, les personnes formidables que j'ai pu rencontrer, Jean Giacometti. Ça m'arrive plusieurs fois par jour. Ou, voilà, mais vous savez, avec l'âge, ça range pas d'ailleurs, ce genre de choses. Les morts reviennent.
Les nostalgies.
Ça. Et non, des mots, des phrases, des choses qu'il m'a dites pour la vie. Il m'a dit des tas de choses pour la vie. Et c'est vrai que je pense à ça. Voilà, quand je marche, par exemple, je marche beaucoup, je marche énormément. Ça, c'était... Mitterrand, il marchait, mais c'était pas pour se promener. Il marchait. Voilà, faut marcher. Allez, on va aller marcher.
Michel Serres m'a déjà dit, en marchant, voyez, ça marche.
Ben, oui, mais tout le cerveau marche en marchant. Vous voyez, c'est très important là-dessus. Les idées viennent. On a des phrases qui viennent pour le livre qu'on est en train d'écrire. On a un nouveau chapitre comme ça qui va s'ouvrir. C'est juste merveilleux. Et puis on pense aux uns, aux autres. Et puis tout ça se mélange, les souvenirs du passé et puis les projets.
Ce qui m'a beaucoup intéressé, alors je le dirai, avec toute la flagornerie que ça charrie, j'ai adoré.
Non, allez-y, vous en priez. Non, je suis très, très sensible à la...
Vous m'en priez.
Ça,
alors,
oui,
parfait. J'ai adoré.
Non, mais lâchez-vous, je vous en supplie.
Alors, je répète, j'ai adoré. J'ai dévoré les 3 tomes. Je suis retourné au premier que j'avais lu il y a 2 ans quand je me suis préparé pour l'interview. Et une chose qui est évidente, c'est que vous avez un appétit, une admiration et une fascination pour le pouvoir. C'est normal, on est journaliste, ça m'intéresse aussi. Est-ce que c'est une maladie?
Ah non, parce que moi, je ne suis pas attiré par le pouvoir.
Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui l'ont incarné.
Non, parce que c'est bien. Attendez, sérieusement. Franchement, De Gaulle, c'est formidable, heureusement qu'il était là. Qu'est-ce que serait la France s'il n'était pas venu au pouvoir en 1958, en mentant à tout le monde, en faisant croire qu'il arrivait au pouvoir pour faire l'Algérie française, alors que... Alors, c'est amusant quand on lit les gaulolâtres, qui sont très nombreux, les grosses bios, etc., c'est toujours... On vous dit jamais les choses, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel bouquin, De Gaulle, en 1940, il disait déjà à tous ceux avec qui il était en confiance, de toute façon, l'Algérie sera indépendante. Il faut... Voilà. Il arrive avec ce projet. il fait croire le contraire. Bon, c'est un menteur. Et vous voyez, il essaie d'amadouer les partisans de l'Algérie française. Ce qu'il fait avec Salan, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien ce qu'il fait avec Salan.
Il le trompe.
Bah oui, il le trompe complètement. Il lui dit non seulement qu'il est pour l'Algérie française, après il va le nommer à un grand poste. Et ce grand poste qui est inspecteur général des armées, où bidon. Il est censé l'accompagner. Non, c'est pas bidon du tout. C'est juste que quand Salan a accepté et qu'il est rentré à Paris et qu'il lui a donné un appartement de fonction aux Invalides, en le faisant croire d'ailleurs que lui, quand il était revenu au pouvoir, il voulait s'installer dans cet appartement aux Invalides. Mon œil. Bon, enfin bref. Oui, ça, mon œil. Mais il arrive, donc, il s'y croit, Salan. Au journal officiel va tomber l'information que le poste auquel il a été nommé, qui existe depuis longtemps, vient d'être supprimé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est De Gaulle. Bon, alors, en même temps, moi, je suis admiratif parce que d'un pays qui était complètement par terre, il a montré simplement les réserves, les forces qu'il y a en France. C'est pour ça que aujourd'hui, faut arrêter. Moi, je suis pas décliniste dans le sens que je pense pas que le déclin soit toujours inexorable, mais le pays est par terre, hein. Et les vrais déclinistes sont ceux qui disent qu'il est pas par terre. Il est par terre. Et là, on mais a besoin pensez... de quelqu'un qui redresse l'apologie du pouvoir quand le pouvoir est entre les mains de gens qui pensent à l'intérêt général et qui pensent à la prochaine génération et non pas à la prochaine élection. C'est toute la différence.
Sur la question, justement, algérienne, De Gaulle, vous le cernez assez bien dans ce premier tome, a tout vu, non seulement pour la génération suivante, mais pour toutes les autres générations. Il dit qu'il y a un enjeu démographique. C'est très fâcheux de dire ça, mais très tôt, lui dit non, on ne sera jamais capable d'intégrer, d'assimiler cette immigration. C'était donc perceptible au début des années 60.
Oui.
Sinon à la fin des années 50.
Il le dit, mais il faut quand même recontextualiser. C'est-à-dire, il est contre l'intégration en gardant l'Algérie en France. Après, on était dans une autre situation. Mais quand l'idée que vous avez, les partisans de l'Algérie française disaient « Oui, il faut garder cette Algérie avec nous et il faut faire l'intégration. » Sauf que De Gaulle, ce qui est extraordinaire avec De Gaulle, alors c'est pour ça que c'est un personnage qui me fascine littéralement, c'est qu'il a énormément de recul. Excusez, c'est pas Macron, c'est pas un court-termiste. Il a toujours, il voit loin avec son copain Malraux, j'imagine. On imagine les conversations, enfin, ils refont le monde, c'est des histoires de civilisation. Et quand il voit que effectivement il y a une démocratie très forte en Algérie, dans ses départements algériens, parce qu'il avait raison Mitterrand, quand il avait dit au moment du départ de la guerre d'Algérie, vous savez, les premiers attentats, l'histoire de la Toussaint, vous vous souvenez, et quand il avait dit, Mitterrand, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, l'Algérie c'est la France, ben oui, l'Algérie c'est la France, c'est des départements français, ce ne sont même pas des colonies, c'est pas... L'Algérie était française. Et De Gaulle, l'idée que ces Algériens ou comme les arabo-musulmans, comme vous les appelez à l'époque, on peut les appeler comme ça encore aujourd'hui, l'idée qu'ils vont être intégrés, pour lui, ça lui paraissait impossible. Vous voyez, donc c'était sa façon aussi de lutter contre... Et peut-être qu'on peut s'en sortir, peut-être... Non, il disait non, c'est impossible, l'intégration, c'est impossible. Mais vous voyez, faut pas contextualiser avec ce qui se passe. Il faut recontextualiser avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il dirait. On sait pas. Mais il dit ça par rapport à.
Mais je sais ce que vous dites en page combien? En page 99.
Non, c'est moi qui le dis ça.
Mais attendez, j'ai pas lu encore.
De Gaulle,
vous vous rappelez ce
non,
que
non,
vous
ne
dites...
confondez pas De Gaulle et moi-même. Enfin, vous êtes très gentil, mais quand même.
Vous me direz que la tentation est facile,
oui,
c'est ça.
Oui.
Alors, vous savez ce que vous avez écrit en page 99?
Oh non, j'ai écrit tellement de choses.
En 1960, 1% des bébés portaient un prénom musulman. 60 ans plus tard, le chiffre est monté à 18,8%. La foi ayant horreur du vide, est-ce le signe que l'islam est en train de prendre peu à peu la place qu'a perdu le christianisme en France? C'est pour ça qu'on vous a fait un procès en grand remplacement et qu'on a dit que vous étiez devenu un vieux réac qui était adopté les thèses de M. Camus. Il me semble que j'ai entendu quelques personnes vous reprocher ça.
Ah oui, c'est vrai. Ah bon, ben écoutez, je ne savais pas, je n'étais pas au courant.
Mais
personnellement,
je le dis avec sourire.
Ah non, mais je m'en fous. Mais franchement, un plus un égale deux, que ce soit dit par un communiste, quelqu'un d'extrême droite, je m'en fous. La réalité, vous savez très bien, ce sont des chiffres. Je cite des chiffres.
20%.
Et je ne suis pas en train de tirer une théorie à partir de là. Je dis simplement qu'il y a un problème. Il faut en être conscient. C'est tout. Et je ne suis pas... Comment dire ? Je suis partisan de l'immigration. Moi-même, je suis un résultat de l'immigration. Mm-hmm. Mon père est américain, il a fait le débarquement, D-Day, première vague, et il en a pris plein la gueule, c'était Omaha Beach, je crois que toute sa section est morte, enfin, sauf lui, c'était une sorte de survivant, couvert de décoration et tout. Bon. Il est allé refaire sa vie aux États-Unis, ma mère, elle l'a rejoint, ils se sont mariés, ils s'étaient rencontrés pendant le débarquement, après le débarquement, bien entendu. Ma mère était à la Croix-Rouge, elle faisait un peu de résistance, etc. Bon. Et puis, elle faisait partie du comité d'accueil qui était, où mon grand-père jouait un rôle important, parce qu'il avait fait, il avait fait vraiment beaucoup de résistance. Mon père a fait venir ma mère, ils ont commencé à faire leur vie aux États-Unis. À un moment donné, ils ont décidé de revenir en France.
Vous êtes d'ailleurs né à Wilmington.
Moi, je suis né à Wilmington, dans le Delaware, le pays de Joe Biden. Je me suis jamais senti américain parce qu'à l'âge de 4 ans, je suis rentré en France. Donc, ça veut dire que l'anglais était ma langue maternelle. Je me suis remis en français. Je me suis jamais senti coupé en deux, donc toutes ces conneries sur biculturel, mon œil. Non, c'est vrai que aux États-Unis, je me sens peut-être un peu plus chez moi que les Français. Mais enfin, l'idée où est-ce qui suis-je, etc. Mais c'est complètement con, ça. C'est des inventions de psychanalystes. En mal de clients. Enfin, c'est absurde. On est très bien dans le pays où on est. Moi, j'ai très heureux. J'ai été élevé en Normandie, etc. Donc, mais je suis un résultat de l'immigration. Et je suis pour l'immigration. La France est une terre d'immigration. Vous regardez Jacques Bainville, qui est l'un des hommes les plus importants de l'Action française avec Charles Maurras. Il y a une différence entre les deux, c'est que il est pas antisémite contrairement à Charles Maurras. Jacques Bainville, historien, il est aussi germanophobe que Maurras. Bon, et lui, il a écrit une histoire de France que j'adore, que j'ai d'ailleurs préfacée. Vous pouvez l'acheter chez Perrin, Tempus, et la publicité est gratuite parce que de toute façon, je touche rien pour ça, bien entendu. Mais j'ai fait une préface. Pourquoi ? Parce que je trouve ce livre extraordinaire, notamment, entre autres, parce que, bon, faut le recontextualiser, il est très anti-allemand. Mais c'est une histoire de France, avec le rôle des Capétiens, tout ça, que j'ai découvert en lisant. Et puis surtout, vous avez les premières pages, où il explique que la France, le peuple français est un composé. Mmh. Mais oui, le peuple français est un composé, il faut quand même revenir là-dessus, c'est important. La France est un isthme, c'est-à-dire que tous ces peuples qui arrivaient de Germanie ou d'ailleurs, ou de plus loin, de toute façon, ils étaient bloqués par la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, les montagnes, les Pyrénées, les Alpes, etc. Puis ils restaient coincés. Bon, ils restaient... Donc, ça, c'est...
Précipité de toutes ces immigrations, quoi.
Voilà. Donc, je vais pas dire qu'il faut arrêter l'immigration. C'est l'idée de grand remplacement, non, c'est juste un problème de mesure. C'est un problème, si vous voulez...
Je suis d'accord avec vous.
C'est que l'immigration soit pas contrôlée. Qu'on puisse arriver en France, n'importe où, d'Italie, etc. Et que la justice vous donne raison, mais non, je montre pas mes papiers, mais non, etc. Mais ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Ça, c'est juste pour remettre, l'église au centre du village, comme on dit. Non, mais c'est, la métaphore est peut-être pas bonne. Mais il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait des règles. Bon, il y a plus de règles. Donc c'est pour ça quand je cite ces exemples, il faut juste quand même à un moment donné, à force d'accueillir tout le monde, toute la misère du monde, comme ne voulait pas le faire d'ailleurs Michel Rocard, qui a dit d'ailleurs des choses très justes sur l'immigration. Ce qu'il y a, c'est que moi je déteste qu'on jette l'opprobre sur les immigrés, toute cette politique, tout ça est idiot. Il faut revenir aux bases, c'est-à-dire contrôler. Quand il n'y a plus de contrôle, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un immense désordre et un affaissement général. Parce que l'affaissement, il n'est pas seulement sur l'immigration, vous l'avez évidemment dans l'éducation nationale, c'est dans la conséquence de l'immigration, mais vous l'avez également dans la justice qui fait n'importe quoi, vous l'avez dans tous les domaines, et il n'y a plus de règles. Même le Conseil constitutionnel, dans une décision sur la loi immigration, s'assoit conchis, je dirais même, l'article 45 de la Constitution, qui dit le contraire de sa décision. Mais il s'en fout. Il va rechercher des trucs dans le droit parlementaire, etc. Il s'en fout. Donc vous avez aujourd'hui ce pays qui n'a plus de règles, vit sans règles.
Monsieur Fabius a aussi déjà laissé entendre que s'il fallait qu'on consulte le peuple, il faudrait voir ce qu'est la question et si la réponse est satisfaisante, comme s'il y avait une souveraineté supérieure à celle du peuple, celle du Conseil constitutionnel. Mais enfin, c'est une parenthèse que je ferme ici. Je reviens à ce que j'allais vous dire. Vous n'êtes pas sans savoir... ou ce que j'allais vous demander, que ce que vous dénoncez aujourd'hui est un peu le fait de ce président que vous avez tant aimé, Mitterrand, qui s'est très bien arrangé avec l'idée de ce qu'une certaine forme d'immigration non contrôlée alimentait le discours de la droite, de M. Le Pen qu'il appelait le pétomane, et que ça divisait cette droite. Moi, je pense que ça a fait certainement le petit lait de M. Mitterrand, du président Mitterrand, tout ça.
On est bien d'accord. Et sur l'immigration elle-même, Mitterrand a été extrêmement naïf, avec l'idée que c'était bon.
Naïf ou cynique ?
Les deux. Les deux, mais il y avait une forme de naïveté. Il y avait l'idée, vous savez, de cette idéologie débile qui était d'ailleurs vendue par tous les proches de Mitterrand à l'époque, ce qu'on en appelle l'immigrationnisme. Et là-dessus, il y a un très bon livre de Paul Lyonnais, Ses voyages au centre, au cœur, je crois, du malaise français, qui est un livre complètement prophétique qui sort au début des années 90 et qui dit exactement ceci, que aujourd'hui, il y a une sorte de nouvelle religion, de nouvelle idéologie, l'immigrationnisme, qui dit que voilà, il faut dépasser la nation, vous voyez, la nation est un frein au développement de, comment dire, de l'identité, de nos identités réciproques, etc.
Un truc étriqué.
Ah non, mais c'est faux. Il faut supprimer la nation. Il faut dépasser la nation, il faut la supprimer. La France n'a plus rien à faire dans l'histoire. Et si vous voulez, ça, ce qu'on appelle l'immigrationnisme, c'est une idéologie très forte. Elle est née sous Mitterrand. Je dirais pas qu'il l'a bénie, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Et vous savez, Mitterrand était un peu double ou triple, donc il pensait un truc, il pouvait penser le contraire. Ce qui est sûr, c'est que, d'abord, il n'a pas vu les problèmes que pouvait poser à terme l'immigration, mais à l'époque, on était très loin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toute frontière ouverte. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y avait quand même des règles qui était encore respecté à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Mais les précédents commencent à s'écrire à cette époque.
Oui, bien sûr, mais c'est pas tout à fait. On n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, l'école est débordée, dépassée, submergée, je dirais presque. C'était pas le cas à l'époque. Vous voyez, non, il faut un peu, comment dire. Pour mettre encore, je répète toujours ce mot, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Le contexte, à l'époque, n'était absolument pas le même. Ce qui est vrai, c'est que vous avez cette idéologie qui commence à se développer.
Qui se met en place.
Qui se met en place et qui existe encore aujourd'hui. Et qui, je dirais, presque a pris le pouvoir. Qui a pris certainement le pouvoir dans la tête de, par exemple, d'Emmanuel Macron, de personnages de ce type. Parce qu'ils pensent, oui, il faut dépasser la France, l'Europe, etc. Bon, et l'idée que, voilà, la France, c'est fini, quoi. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il fait un peu machine arrière, heureusement, mais il y a eu une période qui était, de ce point de vue, un peu délirante.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, puis je reviens à la question du pouvoir, qui est un objet fascinant, et pas de ce qu'on en fait, mais de ce qu'il attire. Il y a un fil rouge qui lie toutes les grandes figures de pouvoir, une topographie intérieure qui fait que ces gens en ont cet appétit et éventuellement le talent.
Bah, forcément, mais ils n'y vont pas pour les mêmes raisons. Par exemple, il y a une catégorie de personnages politiques, ça m'a toujours frappé, bon, qu'en général il y a un tempérament monarchique et qui aime nommer. Donc ils aiment le pouvoir sur l'autre. Vous voyez,
Mitterrand aimait ça.
Oui, Mitterrand, Giscard, enfin, ça, la liste est assez longue d'ailleurs. Hein. Pour eux, c'est très important de nommer.
C'est l'objet le plus important du pouvoir, la capacité de nommer.
Presque pour eux, vous voyez. Alors que pour d'autres, ça n'a aucune importance. Je pense à Jacques Chirac, François Hollande, qui se ressemblent d'ailleurs les deux. Ils ont beaucoup de points de ressemblance. Et donc, les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a des motivations aussi, alors ça c'est peut-être aussi Chirac, c'est que lui, Chirac, il veut gagner. Mais après,
un batailleur,
oui, c'est un conquérant. Mais une fois qu'il est là, il sait plus très bien quoi faire. Je dis pas que ça l'ennuie parce que il a montré à Paris qu'il pouvait être un formidable gestionnaire parce qu'il a très bien géré Paris. Hein, quand on compare avec certains maires qui lui ont succédé, bon, c'est un grand gestionnaire. D'ailleurs, il suffisait de le voir, c'était passionnant. Vous savez, une fois j'étais dans la voiture avec lui, il y a un feu rouge qui était pété à la Concorde et il arrête la voiture et à l'époque c'était Radiocom 2000, enfin des trucs de l'ancien monde. Vous voyez, il essaie de joindre les services, il y a personne, il pète les plombs, j'entends hurler, et puis la voiture était arrêtée, vous voyez, il était tellement hystérique parce qu'il y a un feu rouge, et ça c'est un maire, un vrai maire, parce que j'ai vu souvent des vrais maires qui sont comme ça,
aux affaires.
Parce qu'ils sont aux affaires 24 heures sur 24, après on est arrivé avec 20 minutes de retard au déjeuner, Hein? Bon,
voilà. Mais il y avait un feu à réparer.
Oui, c'était très important. Il fallait que ce soit réglé. Parce que je repartirai pas tant que ce feu ne... Bah, il n'a pas dit ça exactement. Tant que les responsables ne... Tant que je ne saurais pas que les responsables s'en occupent.
Tous n'ont pas eu l'accès que vous avez eu et l'intimité que vous avez eue avec tous ces politiques.
Oui, pourquoi? Mais ça, c'est facile.
Mais c'est pas facile.
Bah, je vais vous dire.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il... Faire... Parce que vous étiez, vous, aussi redoutablement charmeur, vous saviez les...
Non, c'est plus compliqué que ça.
Mais tout est plus compliqué.
Je regardais des collègues. Je voyais quand ils avaient un rendez-vous avec elle ou un déjeuner, ils frétillaient, ils étaient tellement contents. Heureux. Ah, j'ai déjeuné avec Catherine. Pourquoi? Parce que la conversation...
La journaliste.
Oui, la conversation de Catherine Ney. Mais c'est un bonheur. Il n'y a rien à faire, vous l'écoutez. C'est tout un festival d'histoires drôles, de citations, etc., ou de mots qu'elle trouve. C'est que du bonheur. Et moi, quand j'ai vu son succès, mais j'avais à l'époque 21-22 ans, j'ai compris très vite que, bon, il fallait être soi-même, amusant, c'est insolent, d'ailleurs, ils aiment bien, dire ce qu'on pense, hein, ouais, parce que Mitterrand, moi, je lui ai dit, en 81, j'ai pas voté pour lui, par exemple, il le savait, tout le monde le savait.
Vous voyez, alors,
moi, j'étais pas gêné, j'étais chef du service politique du Nouvel Observateur, et je n'avais pas voté Mitterrand en 1981, j'avais pire que tout, j'avais voté Giscard et je ne m'en cachais pas. Pourquoi? Parce que son programme économique, je le trouvais débile. Je le dis.
Vous voyez ce que moi, je rigole parce que vous me parlez d'insolence et en débarquant ici, vous regardez, vous dites, ça sent la merde. C'est le Québécois.
Non, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais c'est vrai que les sous-sols à Paris, parfois, ont cette tendance. Mais là, vous êtes en haut d'une colline. Donc,
mais tout de suite, j'ai senti que vous étiez prêt à me désarçonner un peu. Et cette insolence, elle est effectivement très sympathique. Parce qu'on se dit, tiens, déjà, on est intime.
Bon, je suis passé déjà à autre chose.
Moi aussi. Mais c'est ça aussi, donc, le jeu avec le politique. C'est savoir ne pas être dominé.
Le distraire. Surtout ne pas lui parler politique. L'erreur des journalistes, c'est de leur parler politique. Après, ça vient tout seul. Après, si c'est un homme, un petit coup de rouge, deux coups de rouge, surtout une bonne bouteille. S'ils aiment la bouteille, c'est très important. Mais vous voyez, il y a un mot, vous qui êtes du continent nord-américain, que vous connaissez très bien, que les Américains utilisent tout le temps d'ailleurs, « pain in the neck ». Bon, un journaliste, c'est souvent « a pain in the neck ». Et pourquoi? Parce que on va être sérieux, il va poser des questions sur un tel ou un tel, etc.
Et non. C'est emmerdant.
Non, ouais. Et donc, il va donner les informations sans s'en rendre compte. Donc, vous devez parler.
Il s'en rend pas compte?
Souvent, ils ne se rendent pas compte. Vous voyez, il faut créer quelque chose, un climat, tout ça est marrant. Et puis, à un moment donné, voilà, à la fin du repas, il y a des choses. Et puis, surtout, dès que c'est important, surtout, il faut, contrairement à certains de mes confrères, faut pas avoir l'air du tout intéressé. C'est-à-dire, il y a une belle information qui sort.
Il faut laisser venir.
Surtout, vous ne relancez pas. Vous n'êtes pas à la radio, vous n'êtes pas à la télé. Et si il se rend compte que c'est important, il risque de se refermer comme une huître. Donc, voilà, et puis...
Et c'est off ou c'est on?
Un quart d'heure après... Ah ben, ça dépend, parce que moi... oui, on m'a reproché beaucoup d'avoir trahi le off. C'était marrant, c'était les confrères, évidemment. Fou de jalousie quand j'ai fait mon livre sur Chirac, la tragédie du président, c'était en 2006. Et bon, c'est un livre, évidemment, qui a... Mais un certain succès, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me souviens que j'avais tous ces confrères qui disaient sans arrêt, il a trahi le off. Non mais ça faisait rire, c'était débile. Enfin il y avait le premier truc, c'était mais pourquoi vous l'attaquez maintenant? Pourquoi l'avez pas fait avant qu'il arrive au pouvoir? Eh ben du con, c'est parce qu'il était pas au pouvoir avant. Donc
c'est le temps maintenant.
Ben oui, évidemment. Non mais ça c'était la première objection, mais elle était trop bête. Donc très vite, les gens arrêtaient. Et c'était, mais pourquoi vous avez trahi l'OF? Je n'ai pas trahi l'OF. J'écrivais devant Chirac, sur des cahiers. Et avec l'idée, quand vous écrivez, vous savez, c'est la différence. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, forcément un petit peu, à une époque. J'étais correspondant et puis je fricotais avec quelques journaux américains dans lesquels je pigeais. Et c'est très bien. J'ai vu très bien tout de suite, quand on travaille aux États-Unis, la différence entre ce qu'on appelle le « off the record », qui est quelque chose, vous notez, vous pouvez utiliser quand vous voulez. Ça, c'est off the record. Ça veut dire qu'il ne faut pas le sortir demain, mais vous pouvez le sortir dans 15 jours, dans 3 semaines, ça c'est vous qui décidez. Si vous le sortez trop tôt, évidemment, le type ne va plus jamais vous parler. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le deep pornogram. C'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois dans la bouche, je me souviens, du vice-président Walter Mondale. Non, non, ça c'est deep pornogram. Ça, c'est, vous ne le racontez pas.
Et deep underground, ouais. Donc c'est ouais, et, à ne et pas donc, partager.
Oui, et là, vous avez quelque chose qui est très simple. C'est. J'écris partout. Voilà. Parfois, je me suis aventuré un petit peu sous Chirac sur la vie personnelle, pas dans ce livre-là, mais dans la tragédie du président. J'ai un peu regretté, vous voyez, parce que bon, j'étais allé jusqu'au bout comme ça, j'ai regretté. Mais on écrit, comment dire, le deep underground, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas. Vous voyez, c'est comme
donc
ça.
Donc vous avez du deep underground.
Oui, que j'écrirais pas, vraisemblablement. Ou j'ai écrit, vous voyez, mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Hein, c'était, enfin, Deep Underground, franchement, ça vieillit vite, parce que...
Là, surtout si le personnage est mort.
Est mort, la personne dont il parle est mort, tout le monde s'en fout. C'est bien si on fait une biographie de lui des années après. Vous voyez, c'est pas forcément, c'est pas le deep, mais il y a vraiment une différence entre les deux. Et par définition, le off the record, c'est des notes que vous prenez, et ça m'est arrivé avec Mitterrand, avec Chirac, avec plein de gens, qui disent, non mais ça, vous l'écrivez pas. Très bien, j'écris pas. Mmh. Ou Mitterrand, il y avait une formule aussi, ça c'est pour après.
Après quoi ?
Ça veut dire après la mort.
Oui.
Mais j'avais compris ça. Mais je lui ai pas demandé, bien entendu. Il faut rester quand même, comment dire, dans les limites de la décence. Et souvent, il disait, ça c'est pour après. Donc je le notais devant lui, mais je sais pas, je faisais un petit trait, un petit truc. Et c'est vrai, j'écrivais pas à ce moment-là.
Et par opposition au Deep Underground, il y a le à fleur de peau, comme l'a été Mitterrand. Après qu'il ait lu le livre que vous lui consacrez. Oui. Donc là, il y a un deep silence d'une dizaine d'années.
Oui. Le premier livre, oui.
Regrettez-vous d'abord cette absence dans votre vie, le fait que pendant 10 ans, vous ne voyez plus cet homme qui, vous le dites, a été un père de substitution.
Oui, oui, tout à fait.
Et deuxièmement, l'accès à une source extraordinaire.
Écoutez, c'est assez bizarre, mais non. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis un tempérament joyeux, optimiste, et la vie était belle. Et donc, j'ai très bien vécu sans lui. Et puis, c'est lui qui a un jour décidé,
Jean-Louis Bianco,
de manière un peu étrange, en 1988, du genre la proscription de, oui, pratiquement 10 ans est terminée. Monsieur le président, serait prêt à vous recevoir quand vous voulez. Bah, mon œil, hein, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il croit là, celui-là ? Mais attendez, j'ai pas rappelé. J'ai pas rappelé. C'est lui qui, un an après, rappelle. Alors, pour un rendez-vous, là, j'y vais. Vous voyez ? Mais l'idée que je peux faire une démarche pour demander un rendez-vous, non, j'ai pas demandé de rendez-vous. Parce que je n'avais pas le droit pratiquement d'aller à l'Élysée, ou un peu quand même. Mais quand je le voyais, par exemple, cette période-là, il me saluait pas. Il me voyait. Il y a une scène, je raconte, de remise de décoration, où il serre la main à tout le monde, sauf à moi. Mais il passe quand même devant moi pour pas me serrer la main. Quoi.
Les c'est jeunes diraient que vous avez été ghosté.
Oui, mais enfin, honnêtement, je vivais ça très bien.
Le fait
très, très bien. Non, mais c'est vrai que ça m'a jamais dérangé. Et puis après, je trouvais ça normal, parce que c'est vrai que j'avais été très vache sur le plan économique. Vous voyez, j'ai pas quand même... j'y suis allé assez fort, parfois, sur Mitterrand, de son vivant. Hein. Donc,
vrai.
Ah ouais, très très vache. Sur le côté
vous
monarchique.
Avez déjà des regrets ? Ça vous arrive au moment
ah non,
où vous...
mais... non, parce que c'était la réalité. C'était par exemple le monarchisme mitterrandien. Mais attendez, c'était grotesque. Donc évidemment, quand
vous reprocherez la question,
quand vous faites un bouquin sur Mitterrand, le monarchisme mitterrandien, vous le racontez dans tout son côté. Enfin, je suis pas gêné de raconter son côté grotesque. Parce que c'est vrai que ça me fait rire. Ça me fait rire encore aujourd'hui. Hein, parce qu'il rentrait vraiment dans des tout petits détails. Enfin, il y avait un côté. Oui, on était un peu à la cour de Louis XIV.
Il aimait la
pompe.
Quand
on lit bien Saint-Simon. Un peu, oui, un peu. Un peu. En même temps, il y avait l'humour. Mais comme souvent chez les. Comment dire, oui, les grands égocentriques, il y a quelque chose qui rattrape toujours, c'est le petit clin d'œil, vous voyez, le petit clin d'œil amusant. Donc,
juste pour ne pas s'étouffer sa propre grandiloquence. Vous soulignez, je reviens à l'intimité des politiques, mais vous soulignez à plusieurs reprises les moments de dépression du général, de Chirac, qui sont, je ne sais pas si sur des animaux bipolaires, mais qui sont aussi saisis par des grands moments de doute. J'allais dire qu'on n'imagine pas. Je pense qu'on peut l'imaginer, mais c'est comme si on ne veut jamais contempler cette face plus sombre des politiques. Le doute... l'auto-détestation même dans le cas de Chirac.
Dans le cas de Chirac, pas dans le cas de De Gaulle, mais c'est vrai que le cas de Chirac est incroyable, parce que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Mais je raconte, c'est dans le tome précédent, La Belle Époque, je raconte, moi ça, je n'en reviens pas, quand chaque fois que je pense à cette phrase, c'était un truc très arrosé, comme d'habitude, avec lui, ça devait être en Corrèze, quand il dit, j'ai retrouvé ça dans des notes, moi qui suis moche et con. Alors, moi, j'ai dit, évidemment, c'était peut-être un peu insolent de ma part, je me souviens plus, j'ai retrouvé ça dans les notes. J'ai dit, oh non, pas moche. Ah, vous voulez dire je suis con, alors. Et il se marrait. Vous voyez, ce que je veux dire, c'était... Mais et quand il avait dit ça, il le croyait. Il se trouvait très moche, il se trouvait très con. Bon, ben oui, ça...
Mais dépressif aussi, comme De Gaulle. Ou des épisodes.
Des épisodes terribles qui duraient très longtemps. Alors, De Gaulle, ça durait quelques semaines ou quelques jours. Chez Chirac, j'ai l'impression que ça durait, oui, ça pouvait durer plusieurs mois.
C'est drôle parce que ça me fait penser à... Alors, vous me direz, le registre est incomparable, mais à Mitterrand qui bluffe la presse et les Français pendant des années alors qu'il est malade, comme, j'imagine, on doit bluffer son entourage, son équipe, quand on est dépressif. Donc, c'est cette idée qu'il faut être capable d'assurer et de mentir.
Oui, parce qu'en même temps, c'est vrai que Chirac avait toujours une forme d'euphorie. C'est-à-dire, dès qu'il sortait, dès qu'il y avait la foule, dès qu'il y avait les... Alors là, et puis comme il aimait les gens aussi, donc il est tout de suite heureux. Vous voyez, bah, l'épisode du, par exemple, le salon de l'agriculture avec Chirac, c'était quand même un monument, quoi. Il goûtait tout, il embrassait tout le monde. Enfin, c'était du délire, quoi. Puis ça durait des heures. Et ben, il était très heureux. Il adorait ça. Puis il pouvait recommencer et tout.
Ça guérit momentanément.
Une fois par jour, voilà. Mais je pense que quand il retournait chez lui, enfin, dans ses appartements de l'Élysée, je pense que la dépression repartait.
Quand vous avez quitté les manettes, c'était au point, donc 2014. Vous dites...
À l'âge de 65 ans.
65
ans. Ce qui était normal, j'ai respecté. À l'époque, c'était la retraite à 62 ans que j'aurais pu prendre. Mais comme j'étais pour la retraite à 65 ans...
Vous l'avez assumé.
J'ai assumé et j'ai travaillé 3 ans de plus. Mais en fait, j'avais mes points dès l'âge de 62 ans parce que j'ai commencé à travailler très jeune.
Donc vous avez pris une retraite... abondante. Vous êtes riche dans la retraite. Vous dites, c'est une blague.
Non, mais je l'étais à partir de 62 ans. J'avais tous mes points.
Mais vous avez, au-delà des points, sans doute, autre chose que vous avez peut-être. Parce que vous dites, vous êtes à la fois fourmi et cigale. Donc, assez fourmi, sans doute. Mais on ne rentrera pas dans les détails de votre
cigale,
comptabilité.
Très cigale. Hein,
ça me plaît, ça, cigale.
Je vous montrerai les comptes, c'est atroce. C'est atroce.
Alors, vous dites à ceux qui vous écoutent et que vous allez laisser, je pense que c'est à peu près vos mots, il faut savoir, dans ce métier, être impertinent, voire insolent, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas penser comme le troupeau, très difficile.
Très important.
Et très difficile aussi.
C'est le grand problème des médias aujourd'hui. Les médias disent tous la même chose. C'est vous tournez les boutons, vous changez, les journaux disent la même chose, enfin, à quelques exceptions près, évidemment. Faut pas généraliser, mais l'audiovisuel, j'en parle pas.
Et savoir tenir à distance les puissants. Alors, effectivement, on pourrait juste sur cette phrase...
Oui, il y a un autre point aussi qui est important, parce que j'aime bien cette formule. Je me citais d'ailleurs dans cette phrase. Je me souviens quand j'avais des discours devant la rédaction, où j'étais très ému, j'avais la gorge sèche, parce que c'était pour moi... Bon, c'était compliqué. Je le faisais, j'étais décidé depuis longtemps à partir. Je l'avais dit à tout le monde, personne ne croyait que je partirais. Et je pensais que c'était nécessaire pour la survie du journal, d'avoir des gens jeunes, motivés, à partir d'un certain âge. Vous savez bien... tout ça est répétitif, on en a assez, surtout que moi j'avais fait 30 ans de direction de journal, c'était
beaucoup trop.
Et donc c'était, enfin comment dire, je me disais c'est plus sain de laisser les mains à d'autres, et de laisser la main à d'autres. Et simplement, j'ai dit, cette chose qui est importante aussi, parce que là je citais un de mes romans qui est L'accusé d'Himmler, où l'héroïne dit, à un moment donné, j'étais très fier de cette phrase, mais peut-être que d'autres l'ont écrite aussi, je ne sais pas, mais qui était, je crois que il faut aller toujours à contre-courant, parce que ce sont les poissons morts qui suivent le courant. Et c'est vrai que les médias, en général, dans l'Occident en tout cas, dans les dictatures, de toute façon, ils n'ont pas le choix, mais ont tendance à suivre le courant. Et ça, je pense que c'est fondamental. Un bon journal, de temps en temps, il doit aller à contre-courant, y compris d'ailleurs si c'est pas le courant de ses propres lecteurs, c'est pas le souci. Mmh. Il faut essayer de penser contre soi. C'était absolument
très
évident.
Très difficile.
Ben non, moi j'ai été élevé là-dedans, l'esprit critique, penser contre soi, je me souviens j'ai eu des conflits quand j'étais au point avec des gens que j'adorais d'ailleurs, parce que je voulais donner beaucoup de place à une interview d'Emmanuel Todd, qui était en faveur du protectionnisme et contre l'Europe, et surtout en faveur du protectionnisme. Bon, moi je suis pas protectionniste, j'ai fait des études d'économie, je sais que c'est catastrophique, comme De Gaulle d'ailleurs, qui était un grand anti-protectionniste, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, il y a toutes les phrases qu'il faut là-dessus, mais je trouvais que c'était, comme la pensée était claire, simple. Je pensais que c'était important de mettre cette pièce au dossier. Et j'aime bien, de temps en temps, me frotter, à partir du moment où ils ont du talent, à des gens qui pensent le contraire de moi.
Comme interviewer Milton Friedman quand on est au Nouvel Observateur.
Oui, mais alors, j'étais pas en conflit avec lui quand je parlais avec lui, parce qu'il m'amusait beaucoup.
Je comprends très bien, mais c'était pas nécessairement la pensée du magazine.
Oh, ça fait toute une histoire. Évidemment, l'interview, je me souviens, les gens disent, t'aurais pas dû, etc. Surtout que je le contredisais pas beaucoup, mais c'était pas pareil, parce que lui, c'était un esprit, alors pour le coup, paradoxal, vous voyez, qui aimait bien choquer, on était tout à fait dans autre chose. Enfin, c'était pas un idéologue qui essayait de me fourguer sa marchandise. Il était plus dans un numéro de voltige, vous voyez.
Mais ça incarne cette pensée, j'allais vous dire, contre l'entre-soi.
Oui, bien sûr, c'est important de penser, voilà, qu'est-ce que cet homme qui, c'est vrai, avait conseillé Pinochet au Chili, qui conseillait également la Chine, enfin, qui conseillait des pays de toutes obédiences, vous voyez. Non, parce qu'on en a fait comme une espèce de gourou.
L'incarnation du
diable. L'incarnation du mal, c'était quand même plus compliqué que ça.
Ça fait quelques fois qu'on arrive à cette formule, c'est quand même plus compliqué que ça, et je suis aussi là-dessus d'accord avec vous. C'est très difficile, en quelques minutes, de déplier une vie, ou une personnalité, ou une œuvre, même si nous aimons souvent réduire à peu de choses toutes les équations complexes.
C'est très bien dit. Bravo.
Mais je reviens à ce que vous disiez, justement, de penser contre soi. Vous me dites que c'est facile parce que j'ai su le faire. Bravo. Mais je n'ai pas, moi, aujourd'hui, l'impression que c'est ce que je vois et entends autour de moi quand je syntonise la télévision, la radio, quand je lis les journaux.
Enfin, il y a encore des gens qui le font, c'est pas fini.
Évidemment.
Et puis je pense que, comme toujours, je crois toujours beaucoup à la théorie des cycles de Kondratiev, enfin en économie, puisque de toute façon, ils sont là, on le voit très bien, en tout cas en économie, mais je pense qu'il y a les mêmes en matière culturelle. Et une génération a souvent tendance à contredire celle d'avant, et donc ça se régule.
C'est passager.
Et moi, je ne pense pas que le monde est appelé à devenir wokiste. C'est tellement con. Ça va durer quelque temps. Ça contamine les lycéens et les étudiants.
Mais vous associez naturellement consensus et wokisme. Je ne m'en allais pas particulièrement là. Je constate simplement, effectivement, que penser contre est difficile. Quand vous disiez qu'il faut faire gaffe à ne pas penser comme le troupeau.
Oui, bien sûr. Ben oui, non, mais c'est fondamental. Moi, j'ai comme ça quelques points de repère dans la vie. Je pense notamment, par exemple, à Simone Veil, la philosophe avec le W, et qui a écrit des tas de livres admirables, mais qui en même temps n'a pas fait d'œuvre parce qu'elle est morte à 35 ans.
C'est tout court.
Ben oui, elle est morte à 35 ans, mais elle a écrit plein de choses qui sont tellement...
Je vous ai vu écrire avec amour sur elle dans la revue des Deux Mondes, si ma mémoire est bonne.
Ben oui, je suis amoureux d'elle depuis des années, vous l'avez enfin découvert. J'adore, elle est morte elle est morte dans les années 40, à Londres, parce qu'elle s'était engagée dans la résistance, après avoir eu, une vie de folle dingue, marxiste, syndicaliste, prof, ouvrière, établie un peu. Elle a travaillé partout, elle a eu beaucoup d'idées, et simplement elle avait, l'œil. Et elle faisait mal, vous voyez. Elle allait à Berlin, et elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment se fait-il que les communistes et les nazis s'entendent si bien? Elle osait l'écrire. Hein. Voilà, c'était une intellectuelle de gauche, hein, bon. Puis après, bon, la fin de sa vie, elle a découvert le gaullisme, le général de Gaulle, et puis hop, elle est morte dans un sanatorium, elle avait la tuberculose, et puis je crois qu'elle était très maigre aussi, voilà. Bon, ça c'est un beau personnage, et c'est vrai qu'elle m'inspire souvent, et l'idée notamment de toujours penser contre soi, c'est pas une phrase d'elle, hein, mais c'est vrai qu'elle développe ça souvent dans son œuvre.
C'est plus difficile quand on est à droite? Parce que c'est un des constats que vous faites dans plusieurs de vos articles récents, mais c'est aussi transparent dans le livre et dans les trois tomes, cette idée que quand on est à gauche aujourd'hui, et depuis toujours en fait, parce que Sartre incarnait ça très bien, on ne se trompe jamais, ou on ne se tromperait jamais. Je ne sais pas si c'est...
Oui, mais je pense que c'est ça. Quand on est de gauche, on a le droit de défendre des régimes totalitaires et criminels, hein, c'est clair. Et
puis, Mao, par exemple.
On ne va pas vous en vouloir après. Et c'est vrai, quand on est droite, on n'a pas le droit. Non, il y a deux traitements. Bon, ça, c'est normal, puisque les médias, globalement, sont quand même de gauche.
Parfois, vous pensez même vraiment gauchistes.
Oui, bien sûr, évidemment.
Vous qui avez travaillé dans des médias plutôt de droite, disons les choses, le Figaro et le Point.
Oui. Enfin, de droite, c'est plus compliqué que ça. Parce que,
voyez, alors, ils sont de quoi dire... Ils sont de centre extrême.
Parce que ça veut rien dire quand on fait des journaux. Je veux dire, on essaie d'avoir les bonnes informations, de faire des bons journaux.
Le Figaro n'est pas à gauche.
Non, le Figaro n'est pas à gauche, bien entendu, c'est sûr. Je n'ai jamais essayé d'en faire un journal de gauche quand j'y étais. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut avoir une forme d'humilité quand on dirige les journaux. Il faut rester dans les clous. Il ne faut pas forcément
faire
le journal que veulent les lecteurs, d'ailleurs. Mais il faut rester dans les traditions, revenir aux traditions. Ça a toujours été mon secret, ça. Revenir à ce qu'a fait la gloire du journal et une forme d'humilité et pas je vais tout effacer pour essayer de refaire mon propre truc. Non, il faut penser l'histoire, comment c'était avant, pourquoi ça a marché. Voilà,
respecter l'ADN.
Oui, absolument. C'est rechercher l'ADN parce que souvent les journaux, ils sont morts parce qu'ils ont oublié leur ADN. Vous voyez, il faut reprendre. Et l'ADN des journaux, il est souvent très simple d'ailleurs. Il peut tenir en deux, trois phrases. Et à ce moment-là, il faut s'y tenir. Et le journal, il repart.
Mais en fait, quand je vous parlais de ce que la gauche pardonnerait davantage, je me demande si ce n'est pas un tropisme de droite que de penser comme ça. Parce que les gens de gauche diront, à droite, ils ne se trompent jamais non plus.
Non. Vous savez bien que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, il y a un double traitement. Il y a un double traitement. Non, mais ça, vous posez des questions, c'est normal. Mais il y a un double traitement dans toutes les sociétés occidentales. C'est si vous faites la même chose, si vous êtes de gauche ou de droite, vous n'avez pas le même traitement. C'est évident. Ça commence avec la justice. La justice, la justice en France, et tout le monde l'accepte. Le parquet national financier s'intéresse surtout aux élus de gauche.
Vous pensez que Monsieur Trump
de droite, pardon, excusez-moi. Vous voulez dire exactement l'inverse. Oui.
Mais vous pensez que Monsieur Trump est accablé par une justice politisée?
Non, parce que je pense que c'est un peu différent le cas de Trump, mais je pense que Biden a fait une erreur terrible, c'est de lancer toutes ses actions en justice à un mois de la présidentielle, parce que ça a dopé Trump, ça devait doper Trump. J'ai écrit dans Le Point à l'époque, et ça s'est réalisé. C'est-à-dire que je trouvais ça scandaleux quand c'est le garde des Sceaux, l'attorney général, comme on dit aux États-Unis, qui a lancé l'action contre Trump, hein. Souvenez-vous, c'était l'année dernière. Bon, c'était évidemment une mauvaise décision. Et la justice aux États-Unis, c'est un peu différent de la France. La France se prétend neutre, même si généralement c'est marqué à gauche. Aux États-Unis, il y a une justice de gauche, une justice de droite, puisque comme on sait, ils sont élus.
On nomme.
On nomme et on était. Sauf, évidemment, au niveau fédéral avec.
Cour fédérale, cour suprême.
Et là, à ce moment-là, évidemment, non, mais surtout, la tournée générale. Parce que, évidemment, il y a des actions en justice qui sont relayées par des juges de gauche démocrates contre Trump. Mais, disons, la grosse Bertha, elle a été lancée par Biden et la tournée générale, il n'a pas fait ça tout seul. Hein, bon, avec le procureur général qui est nommé dans la foulée, etc. Mmh. Et ça, je trouvais que c'était vraiment une erreur. Mais ça, c'est plus, ça relève de la politique politicienne, parce que évidemment, moi, j'étais sûr que ça allait aider Trump, qu'il attendait que ça. Et d'ailleurs, comme d'habitude, ça avait très bien marché la première fois qu'il s'est présenté en 2016. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout ça l'a dopé, aidé. Et voilà, c'est le candidat anti-système. Le système veut le bloquer. Et hélas, il risque d'être réélu. Enfin, c'est pas fait encore.
C'est pas fait, mais vous pensez que c'est possible?
Ah oui, je pense, oui.
Mmh. On est quelques-uns à croire en effet que c'est possible. S'il ne met pas le pied sur une pelure de banane ou si on ne lui en glisse pas une sous le pied, c'est une autre affaire. Vous écrivez une histoire intime de la Ve République. L'intime, c'est que tout au long de ces trois tomes, vous parlez de vous, vous parlez de vos parents. C'est ce que j'ai le plus aimé. C'est ce que vous racontez de votre mère, de votre père, qui sont des personnages fondamentaux. Important.
Comme tout enfant. Hein.
Mais dans cette histoire, c'est comme si cette Ve République dépendait pour beaucoup du regard qu'ont porté vos parents sur les institutions, sur les présidents, l'amour qu'a votre mère pour Michel Rocard, qui n'a pas aimé assez ses amis et pas assez détesté ses ennemis. J'ai adoré cette phrase, je me suis un peu reconnu dans ça, essayant de ménager la chèvre et le chou, ce qui est une erreur grave dans la vie.
Est-ce que non, ça serait plutôt moi la chèvre et le chou, c'est plutôt lui le côté, comment dire, protestant, un peu ascétique, vous voyez, et qui, quand il aime quelqu'un, va essayer de se protéger de l'affection qu'il a pour lui, et c'est ça le problème de Rocard, je pense, fondamentalement.
Mais
il n'est pas sympa avec ses potes. Hein. Et c'est assez rare en politique,
pudique.
Mais... Oui, je pense aussi que c'est une forme de pudeur. Mais il est très attachant, Rocard.
Vous avez écrit une très belle phrase, encore une fois, vous aimez que je flagorne, alors, et probablement qu'elle est passée inaperçue, peut-être l'avez-vous même oubliée. « Je suis comme un assassin » qui a tué sa victime par mégarde à l'insu de son plein gré. Et là, vous parlez de votre père.
Et écoutez, pourquoi j'ai parlé d'ailleurs de l'intime, en fait c'est pas mon idée à moi, c'est que quand l'éditeur de Gallimard, qui a eu l'idée en fait de cette série, m'a fait venir un jour, et moi je fais en général jamais les livres que me proposent les éditeurs, j'en fais qu'à ma tête, c'est des romans, c'est des essais, mais en général c'est moi qui ai eu l'idée, et je leur viens en général avec le livre tout fait quoi. Mais là, lui, il voulait me voir et il avait ce truc à me proposer. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, je me disais, mais oui, c'est plus intéressant ça que d'ouvrir. J'avais la malle pleine de cahiers, des cahiers de notes où j'avais pris des notes. Puis surtout aussi, le journal, ça faisait beaucoup de gros cahiers.
Que vous n'aviez jamais mis à profit vraiment avant ?
Non. Et puis j'avais ça là et puis je me disais, mais... Le journal, c'était un journal personnel, intime, hein. C'était pas donc forcément sur la politique, mais enfin, je me suis servi d'éléments sur la politique, évidemment. Enfin, j'ai un peu épluché, quoi, vous voyez, j'ai pas tout gardé. Ce sont quelques petits extraits de ce journal. Et je me disais, ça m'ennuie. Tout ça m'ennuie, et donc ça m'intéressait pas. Et en fait, il m'a donné le déclic, c'est-à-dire, effectivement, l'idée de mélanger... Parce que c'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire des Français.
Mmh, de la musique.
C'est le va-et-vient en permanence entre la culture, qu'est-ce qu'on pensait à l'époque, pas seulement moi, les autres, de ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui, et aller et venir, etc. J'aimais beaucoup cet exercice. Et je l'ai fait d'ailleurs, et en écrivant, je me suis rendu compte, mais c'est pour ça que c'est peut-être un livre qui parle à beaucoup de gens, par exemple, que quand je parle de 1989, j'arrive sur 89, et bah oui, la chute du mur...
passe derrière la mort de votre mère.
C'est la mort de ma mère, c'est le plus important. Mai. Et pourtant, la chute du mur, c'est un événement historique absolument fondamental. Mais je pense qu'on est tous pareils. C'est-à-dire, il y a des choses personnelles qui vous brisent, qui vous cassent. Et à côté, un grand événement comme la chute du mur, qui est un des grands événements historiques que j'aurais vécu dans ma vie, bah oui, ça passera pas.
Et vous avez fait l'impasse sur ce que je disais de votre père très habilement, parce que c'est une très jolie phrase. J'ai envie de la relire.
Oui, alors le père, c'est compliqué.
L'insu de son plein gré, avoir assassiné son père, qui n'était pas un personnage facile à aimer.
Oui, il fallait vraiment... il fallait du courage. Parce qu'il se détestait. Parce que c'était un survivant de la Deuxième Guerre mondiale, donc un GI qui avait fait le débarquement, qui avait énormément de qualités. Je m'en rends compte aujourd'hui, avec le recul, à quel point je lui ressemble. C'est-à-dire que, pas sur la violence, mais sur la... Moi, je suis au contraire, non-violent, mais c'est normal. J'ai pris un peu tout le contraire de mon père. Mais je me rends compte que, par exemple, le côté littéraire, ça vient de lui. Lui, c'était un peintre. Mais il lisait énormément de livres et il avait toujours un temps d'avance sur les autres. Ça m'amuse parce que quand je pense que j'ai lu Solzhenitsyn,
il avait le flair.
Ouais, c'était juste incroyable. Les grands auteurs américains, Philip Roth, tout ça. Et bon, Saul Bellow, c'était un peu différent. C'était un copain de mes grands-parents, qui est mon grand-père était prof à l'Art Institute à Chicago et donc il était copain avec un certain nombre de grands écrivains qui étaient à l'époque à Chicago. Mais donc tous ces écrivains, je peux en citer plein. C'est-à-dire qu'alors qu'ils n'étaient pas célèbres, hein, qu'ils n'avaient pas eu le retentissement qu'ils ont eu finalement. Bon, il y avait tout ça à la maison. Mon père lisait énormément et donc je sais ce que je lui dois parce que je me rends compte que j'aime les mêmes livres que ceux qu'il aimait. Vous savez, c'est la littérature, on n'aime pas tous les mêmes choses. Mais en fait, j'ai exactement le goût de mon père.
C'est une forme de communion à travers les livres.
Oui, c'est peut-être génétique aussi, je ne sais pas. Peut-être la biologie pourrait nous expliquer que c'est normal, ça doit être une histoire de chromosomes. Mais en fait, c'est vrai que je mets très haut tous les livres qu'il a aimés. C'est étrange.
Vous l'avez aimé trop tard ?
Non, je l'ai aimé quand il était mort. Dès qu'il est mort, il est mort, j'avais une trentaine d'années.
Détesté avant, aimé après.
Détesté, oui, mais c'est des choses qui arrivent. Je savais que je devrais lui pardonner un jour, parce que bon, il était quand même très violent avec ma mère. Bon, avec moi, c'était pas grave, parce que je défendais ma mère, mais et donc j'en ai beaucoup voulu. Et puis ma mère, elle, c'était le pardon. Ma mère était catholique, féministe, hein, ma mère, féministe, très féministe.
Hein, et très catholique.
Et très catholique, mais catholique, genre mystique, vous voyez, un peu, peut-être il y avait un peu de Georges Bataille là-dedans, je ne suis pas sûr.
Sainte-Thérèse. Enfin.
Oui, mais Georges Bataille aussi, vous voyez, elle était très libre en même temps. Ma mère était, comment dire, quelqu'un de... Ouais, qui disait toujours les choses comme elle les pensait, parfois ça...
Comme vous aujourd'hui.
Ça choquait, hein. Elle pouvait choquer énormément, je me souviens, elle était prof de philo, les élèves l'adoraient, mais elle parlait cru.
ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Vous avez dans un livre antérieur, Dieu, ma mère et moi, voilà une nouvelle trinité, parlant de votre foi, et vous m'entendez peut-être venir, je n'ai jamais douté, même par les soirs où mon père battait ma mère, qui poussait des cris étouffés pour ne pas réveiller les enfants. Comme à contrario, des parents choisissent de faire l'amour silencieusement pour ne pas réveiller les enfants. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de figure ici. C'est très violent enfin, comme image.
Enfin, ils s'aimaient en même temps, c'était compliqué. Mais ma mère pensait toujours qu'elle finirait par le dominer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la fin. Et parce que ma mère était un personnage puissant. Mon père aussi, hein. Mais mon père, il y avait beaucoup de tristesse. Il y avait un sentiment aussi d'être un artiste raté. Enfin, c'était compliqué. Il était toujours défaitiste, sombre. Mais enfin, il avait beaucoup de qualités. Il était capable aussi d'être très joyeux. On ne savait pas pourquoi, brusquement. Moi, je suis un peu joyeux à 100% du temps. Mon père, c'était plutôt à 10%. On est quand même, de ce point de vue, on est assez différents.
Mais quand vous dites à plusieurs reprises pendant cette rencontre, c'est plus compliqué que ça, ça illustre parfaitement le couple. Parce que de l'extérieur, on dirait, mais qu'est-ce que fait cette femme intelligente, prof de philo, féministe,
oui,
qui vit avec un
qui pareil... Qui fait de la politique, qui est complètement...
Et
oui,
qui vit avec un homme violent.
Mère. Ben oui, bien sûr. Mais ça, c'était ma mère.
Mais elle, c'est aussi la vie.
Elle pensait qu'elle finirait par... Ben, elle a réussi. Parce qu'elle aimait ce côté perdu, enfant de la guerre, quoi. C'est-à-dire, c'est à travers mon père que j'ai compris le drame de beaucoup de soldats qui reviennent de la guerre. C'était le drame de beaucoup de soldats de 14-18, on le sait très bien quand on parle des...
Gueule cassée.
Moi, j'ai connu les... Non, je parle pas de ça, je parle juste des traumatismes. J'avais un grand-père, le grand-père maternel, le père de ma mère, qui avait fait de la résistance, qui était un dur à cuire, etc. Et je me souviens, quand il parlait de 14-18, il avait fait Verdun notamment, il devenait fou tout seul, enfin il se chauffait tout seul, alors que c'était quelqu'un qui avait une maîtrise de soi dingue. Et donc je pouvais comprendre déjà que la guerre était quelque chose d'atroce, quoi. Vous voyez ?
D'indicible surtout pour ceux qui n'ont pas connu l'expérience.
Absolument.
Il y a une frustration monstrueuse, c'est vrai, pour tous les vétérans qui reviennent de l'Irak, de l'Afghanistan, des oui, Russes qui reviendront du front, ça, des voilà, Ukrainiens.
On a découvert ça au XXe siècle, c'est l'une des découvertes du XXe siècle, le traumatisme des soldats. Mais je peux dire, moi je l'ai vécu avec mon père.
Je termine sur la foi, oui. Ou sur, dans votre cas, c'est peut-être le panthéisme, je ne sais pas, parce que vous êtes...
Ouais, je suis un peu...
Ouais, vous êtes... Ouais. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça fait ça fait un peu froid quand on est entre gens branchés dans les milieux du journalisme que de parler de sa foi. C'est pas nécessairement le truc qui...
Oui, on n'en parle pas d'ailleurs. Moi, je sais que j'en parlais peu et je trouve que comme il y a une espèce de quand même de courant assez anti-religieux, mm-hmm. anti-catholique en tout cas, parce que c'est moins vrai pour l'islam, mais il y a un courant assez anti-catholique dans les journaux, dans les médias. C'est vrai que
ils fabriquent l'air du temps.
Oui, ils fabriquent. Enfin non, ils participent parce que je pense pas qu'ils fabriquent. Je pense qu'ils sont un peu l'émanation de l'air du temps. C'est vrai que à partir de là, je sais pas. Moi, j'ai eu le sentiment parfois d'être une sorte de cateau des catacombes, vous voyez, qu'une espèce de club comme ça, on se parle en cachette, on se dit, etc., pour faire avancer des trucs, parce que, et c'était vrai déjà il y a 20 ou 30 ans.
Vous aviez honte de ça ?
Non, pas du tout, mais pour faire avancer les choses. Et on était quelques-uns comme ça. Et moi, je suis un catholique quand même très bizarre, parce que j'aurais été brûlé au Moyen-Âge, parce que je suis panthéiste. Pour arranger les choses, d'ailleurs, et... pendant pour la paix des ménages, je dis toujours je suis franciscain. J'ai la figure de François d'Assise. Et François d'Assise qui était un gros malin.
Ça vous donne la marge de manœuvre.
Non, qui était un gros malin, qui était un hérétique, qui était copain avec le pape, oui. etc. Mais qui a quand même réussi le moyen. Alors je sais jamais s'il s'est fait faire ça avant de mourir ou pas, mais vous voyez, il avait les clous qui s'étaient fait enfoncer parce que le pape a délégué quelqu'un quand même pour aller voir. Et on a ouvert le cercueil pour regarder si quand même il y avait les stigmates, comme c'était dit. Ouais, donc ils ont tout vérifié. Non, il y avait les stigmates. Bon. À mon avis, il a fait faire ça avant. Il avait ses 12 apôtres, etc. Bon, il avait essayé de rester dans les clous en même temps.
Dans les clous, c'est bien dit. Hein.
Et absolument. Et il a toujours fait en sorte de passer un peu pour un imbécile, mais pas vraiment. Ben, on ne pouvait pas être dupe. Mais vous voyez, il n'a pas laissé des grands textes, etc. Mais moi, je trouve, c'est la synthèse, il faut dire les choses, entre le christianisme et le bouddhisme. Et dans la dimension bouddhiste, ce qui m'intéresse, c'est la dimension panthéiste. Et donc, il y a ça, quoi, d'une certaine manière. Alors, c'est une religion, le franciscanisme, qu'abrite le catholicisme. Et donc, je me sens très bien, là, vous voyez. Mais je suis plutôt... Bon, je veux pas rentrer dans les détails, parce que je sais que j'ai choqué beaucoup d'amis chrétiens. Parce que c'est, je me souviens très bien de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Jean-Marie Lustiger, le cardinal. Je rendais fou dès que je commençais à parler. Deux, trois fois, ça m'arrivait. Et puis, il me traitait de syncrétiste. Vous êtes un personnage absolument épouvantable. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Je peux pas se refaire. Mais j'ai la foi. Alors, j'ai la foi en même temps.
Mais depuis toujours.
Depuis toujours.
Parce que vous avez dit précoce en rien, sauf en Dieu.
J'ai le sourire idiot des croyants. Des croyants. Mais oui, j'ai complètement comme ça. Je souris. Si vous me laissez tout seul, je souris. Voilà, comme l'idiot du village. Je suis très heureux. Donc, et pourtant, si je rentre dans les détails, je dis, ouais, je suis catholique parce que je me sens chez moi à l'église, mais enfin, n'importe qui peut se sentir chez soi à l'église, c'est pour ça que c'est fait. Mais si je rentre dans les détails de ma foi, c'est vrai que je peux devenir extrêmement choquant parce que je crois pas à la vie éternelle, je crois pas à toute une série de choses. Et déjà, quand j'étais gosse, je posais un problème par rapport à l'Eucharistie, par exemple. Vous voyez, je disais, ça choquait toujours beaucoup ma mère. Non, mais moi, c'est pas pour moi. Je mange pas le corps du Christ. Mais non, je mange pas le corps du Christ.
Pas... Mais à la rigueur, je boirais bien un petit verre de vin.
Ça, c'est autre chose. Mais le sang, on vous propose pas. Moi, à l'église, ouais, je boirais bien un petit coup du sang du Christ. Comme c'est avec le curé qu'elle boit d'en boire. Et nous, on est là à manger le corps du Christ. Non, moi, je veux pas. Bon, enfin, en même temps, je veux pas insulter. Vous voyez, moi, je suis très respectueux des religions. Je n'insulte jamais. Donc là, je m'arrête là parce que je veux pas être scabreux. Les religions, je respecte. Après, il faut savoir un petit peu, comment dire, penser contre soi. Il faut penser un petit peu, déconstruire, c'est toujours important, comme dirait Jacques Derrida. Oui, mais déconstruire, c'est quelque chose d'important. Et après, ça ne veut pas dire
que vous êtes déconstruit. Il faut savoir où arrêter quand on déconstruit.
C'est pas ça. C'est pas parce qu'on a déconstruit que les choses disparaissent. C'est juste qu'on a peut-être un petit peu mieux compris les ressorts. Vous voyez, c'est comme quand on défait, je sais pas quoi, une maquette d'avion pour pouvoir la reconstruire après. C'est très bien.
Reverse engineering, ils disent.
Oui, bien sûr. On ne détruit pas. Déconstruire, ce n'est pas détruire. C'est pas pareil.
Est-ce que la foi
c'est comprendre.
Est-ce que la foi donne de la félicité à l'âge honorable qu'est le vôtre? Parce que vous
75
avez...
ans, on peut le dire. Hein.
Ben oui, on peut le dire certainement.
Aux fraises, comme ils disent.
Mais vous avez eu des soucis de santé qui font penser à la mort.
Souvent.
Mais vous avez dit souvent. D'ailleurs, très tôt dans l'interview, nous, à la ferme, on sait faire face à la mort. On regarde ça droit dans les yeux.
Oui. Et puis j'ai des amis qui sont, morts, vous voyez, qui m'ont... Je me souviens de Julien Green à 97 ans, ou 96, je ne sais plus, oui, il va avoir 97 dans ces eaux-là, et qui me dit, ça y est, c'est bon, je vais mourir. Parce qu'il avait des vertiges, et ça l'embêtait de tomber tout le temps, alors on disait, il faut une chaise roulante, il dit, non, on met jamais de chaise roulante. Moi je disais, mais oui, c'est très bien une chaise roulante, un fauteuil roulant, non, mais jamais de la vie, je ne monte pas là-dedans, moi. Non, mais alors, il avait sa canne, mais pouf, de temps en temps, il tombait, donc il avait des bings. Alors on disait, c'est pas possible, vous allez vous casser quelque chose, vous allez tomber dans l'escalier. Très bien, allez, je vais mourir, et c'était pas une histoire. Hein. Il s'est mis dans son lit, il est mort. Enfin, il a mis du temps, il a mis quelques jours, il est rentré. Et Mitterrand, c'est la même histoire aussi. Mitterrand lui a dit, ça va, allez, on arrête tout. Et ça, c'est quelque chose que je comprends bien. C'est pas du suicide, c'est autre chose. On dit, c'est fini, j'ai fait mon temps. C'est très beau.
Et votre temps, vous l'avez bien fait. Non pas qu'il soit terminé, mais... Et
j'ai pas l'intention de faire ça, dans l'immédiat. Mais je comprends, disons, qu'on le fasse. Et j'ai vu ça autour de moi, chez des paysans, qui disent « Ouais, allez, ça va, c'est bon, j'ai mal partout, c'est bon. » Puis voilà, il y a un moment donné, vous voyez, et c'est pas une histoire. Ce qui est vrai, c'est, Stéphanian, j'ai vu ça d'ailleurs à travers ma mère, la souffrance, ça me rend fou. La souffrance des autres, en tout cas, ça me rend complètement fou. Aujourd'hui, tout est fait pour éviter la souffrance, Dieu merci. Mais c'est sûr que c'est une épreuve, à mon avis, beaucoup plus dure, l'extrême souffrance, que la mort elle-même. La mort, si vous voulez, l'idée de partir, Moi, j'ai bien précisé que je veux un cercueil en carton. Pourquoi ? Parce que le carton, ça ne tient pas. Et donc, je vais pourrir
plus rapidement.
C'est mon côté franciscain, ça, vous voyez. Et après, vont sortir des petites fleurs qui sont mangées par des animaux. Et
très
puis
bien.
Voilà, et je rentre dans le grand cycle de la vie. Et je trouve ça très bien. Donc, j'attends ça avec. À 75 ans, c'est tout prêt, je suis tout prêt, vous voyez. Et je ne suis pas affolé, effrayé. Je trouve ça assez joli. Cercueil en carton, hein, vous bien le rappeler.
Tout à fait, je vous souhaite
parce qu'il
d'être.
Parce qu'il paraît qu'on peut avoir des cercueils à carton.
Je vous souhaite donc d'être un pourri. François-Olivier Gisbert, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je ne sais pas pour vous, mais je suis très content d'avoir insisté pour qu'on se rencontre.
Ben, moi aussi.
Je vous serre la main. Merci beaucoup.
À vous.
Très cool. Thank you very much, sir.
Thank you.
Mais voilà, c'est tout. Si ça vous a plu, vous
After
pouvez...
After a while, crocodile.
After a while, see you
there.
Little,
little baboon, oui, bien sûr.
Ah, il n'y a aucune fête. C'est son petit côté américain.
See you soon, little baboon.
Si vous avez donc apprécié, vous pouvez partager notre entretien. Je vous rappelle aussi, c'est important, que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes. Si vous n'êtes pas abonné à notre émission, ben, s'il vous plaît, faites-le. Marianne Grenon est notre recherchiste. Jeanne Croteau, la réalisatrice. Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt.